Merci beaucoup. On a peu de temps pour quelques questions. Je vais quand même pas me laisser attaquer sur Smart City. En vous citant juste une anecdote, il se trouve que je m'occupe de ça en ce moment à la Caisse des dépôts. On a reçu l'année dernière un prix Le Monde Smart City, une des filiales de la Caisse des dépôts, avec un dispositif qui va un peu dans le sens de votre propos, qui consiste à ne pas faire. En l'occurrence, il s'agit de rémunérer un automobiliste qui ne prendrait pas sa voiture à l'heure dite. Donc vous avez des réseaux de capteurs, vous avez un truc embarqué, et la personne ne prend pas sa voiture entre 17h et 19h, je sais pas où, à Bordeaux ou à Toulouse, et va recevoir, au lieu de payer 1 euro pour le péage, ou 2 euros, elle va recevoir 1 ou 2 euros pour ne pas prendre. C'est une anecdote sous forme de boutade, mais pour vous dire que le smart, et parfois certaines technologies, pourraient aussi nous aider à plus de robustesse ou un peu de résilience dans tout ça. Allez-y, commencez. Et s'il vous plaît, soyons courts, on est fait.
Oui, bonjour Patrick Falcon, l'ONF. Et comment peut-on concilier cette approche, par exemple, avec un phénomène nécessité de densification, par exemple, des villes? Si on veut densifier les villes, il faut des immeubles théoriquement plus élevés, et donc on quitte la taille humaine. Est-ce qu'il n'y a pas des choses inconciliables dans ce que...
Oui, enfin, on présente actuellement la densification des villes comme le nec plus ultra. Alors, d'une part, j'ai vu qu'il y a certaines études qui montrent que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, par exemple, le Parisien qui vit dans une ville très dense peut dire qu'il dépense dans sa vie quotidienne moins d'énergie que le campagnard qui prend sa voiture, mais en même temps le Parisien va aussi le week-end prendre l'avion pour aller sur les îles grecques ou des choses comme ça, et donc en fait il compense aussi d'une certaine manière sa vie dans un centre urbain très dense par des escapades ici ou là, et que si on intègre précisément ces dépenses là, le bilan n'est pas si clair par rapport au banlieusard, si vous voulez, qui fera sur le week-end son barbecue dans son jardin. Alors certes, pendant la semaine, il a utilisé sa voiture, mais le week-end, il dépense moins. Donc en fait, la chose est un petit peu plus compliquée. D'autre part, le gros problème, à mon avis, que posent quand même ces histoires de densification urbaine, c'est le fait que ça suppose quand même des réseaux d'approvisionnement pour ces grands centres urbains absolument énormes. Et là encore, la robustesse, elle peut vraiment être mise en question. Il faut voir qu'à Paris, au 19e siècle, Paris était autosuffisant en fruits et légumes par le fait qu'il y avait des jardinets un peu partout et puis que les Parisiens avaient une certaine autonomie. La Commune de Paris, bon, il y a eu une famine pendant la Commune de Paris, mais enfin, malgré tout, Paris a pu tenir quand même pendant plusieurs mois un blocus total. Ça voulait dire qu'il y avait quand même des choses à manger dans Paris. Aujourd'hui, s'il y a Paris un blocus total, en une semaine, c'est la Commune de Paris est liquidée. Hein. Donc, en fait, ce problème de densification,
Nuit
il est aussi...
Nuit debout a tenu 3 semaines.
Comment ?
Nuit debout a tenu 3 semaines.
Oui, mais enfin, non, en l'occurrence, il n'y avait pas un blocus autour de gens qui faisaient nuit debout. Donc les Franprix étaient toujours approvisionnés. Donc en fait, la densification, c'est une solution, mais qui suppose quand même beaucoup d'infrastructures.
Merci.
Oui, bonjour, Yannick Dissous de Dunkerque. Merci, c'était absolument passionnant. Une petite question, parce que évidemment la démonstration est assez impressionnante, mais moi, je pose la question un petit peu de ce qui viendrait trouver un point d'équilibre entre une densité souhaitable et une densité incontrôlée, et juste en faisant référence au modèle de civilisation qui est né dans les villes, donc avec les rencontres, l'activité intellectuelle, un certain nombre des équipements d'initiatives culturelles, intellectuelles, les universités, qui sont à l'évidence des éléments favorables, mais qui ne contredisent pas non plus la dimension de la finitude que vous avez évoquée.
Bah oui, enfin, l'histoire nous montre que quand même la fécondité, par exemple, la fécondité intellectuelle, elle suppose certes les villes, mais en même temps, elle ne demande pas des villes énormes. Les plus grandes réussites dans l'histoire de l'humanité culturelle, on peut dire à l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, ou la Florence et Venise de la Renaissance. La Florence de la Renaissance, c'est 50 000 habitants. C'est microscopique. En revanche, à nos échelles d'aujourd'hui, ce sont des villes qui sont ouvertes sur le monde. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est assez désagréable aujourd'hui, c'est de toujours opposer, vous voulez, l'ouverture tous azimuts au repli sur soi, alors qu'en fait, on peut être, on peut vivre, si vous voulez, à une échelle relativement petite, avec une très grande ouverture. Les gens de la Toscane de la Renaissance ne mangeaient pas des kiwis de Nouvelle-Zélande, certes, ils mangeaient de la nourriture qui était produite dans la campagne qui environnait Florence, mais en revanche, l'université de Florence, elle était ouverte sur le monde. Donc en fait, on a tendance aussi à nous dire, comme si on avait des choix dichotomiques, soit on est dans son village, on parle à personne, ou bien, en revanche, c'est tout circule sans limite. Il me semble que justement, les villes de la Renaissance ont donné un très bel exemple de ce que peut être un équilibre entre une échelle de vie assez réduite et en même temps une très grande ouverture.
Elisabeth Gaillard de Colas, j'ai deux questions qui n'ont rien à voir. La première, quand vous parlez des limites de l'homme, quid de la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, qui sont quand même un moyen d'augmenter les limites cognitives et même physiques et psychiques de l'homme. Et deuxième question, donc, qui n'est pas liée, quand vous nous parlez des organisations biologiques, hein, je trouve ça, avec la question surface versus volume, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous avez creusé les analogies pour les organisations humaines type entreprise? On voit qu'on a certains dispositifs du genre Open Innovation Partenariat qui finalement permettent d'augmenter la surface de contact de l'entreprise pour un volume donné. Donc est-ce que vous avez approfondi ces sujets?
Bon, pour la première question, moi je suis intelligence artificielle d'ailleurs, tout ça, mais la question c'est que cette intelligence artificielle, elle nous reste extérieure. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement complexe que précisément nos facultés cognitives sont complètement dépassées. Là, le dernier travail auquel je me suis consacré ces dernières années, c'était pour essayer de comprendre les raisons de l'empire statistique, le fait qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est régi par des statistiques. Et d'ailleurs, en fait, on montre des courbes, enfin, on est dans un monde qui est dominé par des statistiques. Pour quelles raisons? Simplement parce que précisément, nous vivons dans un monde qui est tellement qui dépasse tellement nos facultés de compréhension et d'appréhension naturelle qu'on est obligé de s'en remettre à ces indicateurs. Alors à ces indicateurs, d'un côté, on peut leur reprocher de simplifier abusivement les choses, c'est souvent ce qui est dit, mais en même temps, on a besoin de cette simplification parce que de toute façon, le monde n'est plus à notre mesure. Donc c'est un peu les symptômes du fait que, justement, on est dépassé par le monde dans lequel nous vivons. Alors on a ces instruments. Mais ces instruments, ils sont toujours là pour ramener la complexité qui nous dépasse à des choses qui sont assimilables par nous. Et en même temps, on touche aujourd'hui les limites du phénomène parce qu'il y a un tel décalage entre ce qu'on est capable de comprendre et la complexité à laquelle on est confronté que soit on veut être fidèle à la complexité et en fait on ne comprend rien, soit pour qu'on puisse comprendre, on est obligé de simplifier abusivement. Alors, on est toujours dans cette tension. Alors là arrivent les transhumanistes qui vont vous dire, bon, on va résoudre le problème parce que, justement, c'est vous-même qu'on va augmenter. C'est pas, on ne va pas simplifier le monde, on va vous compliquer, vous. Et donc, en fait, comme vous serez beaucoup plus complexe, vous arriverez à être à la mesure de cette complexité. Mais en fait, le transhumanisme, c'est le symptôme du fait que nous avons tellement transformé le monde que justement, on est devenu tellement inadapté au monde que c'est nous-mêmes que nous devons transformer pour être encore à la hauteur du monde que nous avons engendré. Avec ce paradoxe que toute cette technique, elle était là normalement pour nous rendre le monde plus agréable. Et en fait, au bout du compte, justement parce qu'on n'a pas respecté certaines échelles, ce monde qui devait nous être plus agréable, il nous dépasse tellement que c'est nous-mêmes aujourd'hui qui sommes sommés de nous transformer pour pouvoir encore suivre le rythme. Il y a aussi une chose, d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé, quand on parle de taille, il ne faut pas oublier que la taille, c'est non seulement d'un point de vue géométrique, mais c'est aussi du point de vue des vitesses. Il y a un livre très intéressant de ce point de vue-là de Hartmut Rosa qui s'appelle Accélération et qui traite entièrement cette question de l'accélération parce que, évidemment, nos limites, elles sont non seulement dans la taille de notre corps, mais aussi dans les vitesses de fonctionnement de notre corps et de nos facultés mentales. Et aujourd'hui, justement, on a tendance, les dispositifs techniques vont tellement vite que précisément nous avons du mal à suivre. Prenez les courriers électroniques, on va accélérer les échanges entre les gens, c'est formidable, sauf que quand on ouvre son ordinateur, on est accablé par les messages non lus, quoi. Enfin bon, voilà. C'est... Alors du coup, on va dire, on va mettre des puces dans le cerveau, comme ça, qui répondront automatiquement aux messages, je ne sais pas. Mais en fait, là, on s'aperçoit qu'on rentre dans une course technologique qui est un peu désespérée. Et je pense que le transhumanisme est une mauvaise réponse à un vrai problème. Et puis la deuxième question, j'ai oublié.
Ah oui, pour l'organisation.
En fait, toutes les organisations, en fait, sont confrontées à un moment donné, quand elles ont du succès, lorsqu'elles croissent, de savoir si la bonne croissance, c'est une croissance à l'identique, à faire croître leur taille, ou bien l'essaimage. En fait, ça a toujours été une question. C'est une question qui est vieille comme le monde. Par exemple, vous prenez les cités grecques. Alors, les Grecs considéraient que la vie politique, à mon avis, à juste titre, hein, politique, ça vient de polis, polis, c'était la cité, ils considéraient qu'il ne pouvait y avoir de vie politique que dans une cité, et donc l'organisation politique, c'était celle de la cité. Mais alors, une cité, elle peut pas être trop grande. Donc, ce qui faisait que quand une cité était prospère, que sa population croissait, au bout d'un moment, on disait à des gens, vous allez aller fonder une colonie, vous allez construire une autre cité. Et puis vous avez le modèle où, au contraire, quand on est prospère, on va toujours grossir. Voilà, et je pense que prenez les cellules, justement, les cellules, quand elles croissent, à un moment donné, leur organisation n'est plus viable, et donc elles font deux cellules. Ou alors, pour les organismes, si quand ils croissent à un moment donné, pour rester viable, il faut qu'ils changent leur organisation. Et je pense que pour les entreprises, elles sont confrontées à cela, c'est-à-dire que quand elles sont prospères et qu'elles grossissent, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il faut grossir en restant une seule entité, mais alors en sachant à ce moment-là qu'il va avoir profondément changé l'organisation, parce qu'une petite entreprise ne peut pas fonctionner comme une grande, ou alors faire une sorte de, d'essaimage, et de refonder à côté des choses de taille qui restent de petite taille. Ça, mais bon, après, ça, moi, c'est pas des questions que j'ai explorées plus avant. Mais c'est toujours la question qui est posée vis-à-vis de la croissance.
On a encore 3 ou 4 questions. Est-ce que vous restez un peu avec nous jusqu'au déjeuner?
Oui.
Ok, du coup, on pourra rattraper aussi pour ceux qui n'auront pas posé la leur. Je fais une brève insiste parce qu'ils avaient d'ailleurs finalement un peu peut-être démasquer le projet que j'avais en tête en invitant Olivier Rey, en lisant son livre, j'ai eu cette espèce effectivement de choc, de l'ampleur des enjeux qu'il nous met sous les yeux, et je me suis dit, est-ce que l'IEDAT, cette communauté d'acteurs de l'aménagement du territoire, qui a plus de 10 ans, qui est une richesse incroyable, ne serait pas un bon endroit pour réfléchir dans les prochaines années, avec des projets de recherche, etc., à cette question de l'échelle, d'être des innovateurs en introduisant un peu dans notre réflexion d'aménageurs, etc., la question de l'échelle, et beaucoup de nos infrastructures peuvent être réimaginées, recomposées, réformées, réenvisagées avec cette chose. C'est un autre projet qui relève de la recherche. Sandra, et là-bas, il y avait une question depuis longtemps.
Oui. Bonjour, Marion Alfaro. Vous nous avez présenté la vision des anciens et des modernes de ces questions-là, mais est-ce qu'il y a une pensée post-moderne, en fait, de ces questions-là? Si oui, quelle est-elle? La vision moderne, elle est peut-être plus aussi... que vous nous présentez, je pense pas qu'elle soit la... Est-ce que c'est la vision dominante aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas déjà dépassée? Et si oui, par quel questionnement?
Alors dans le livre Une question de taille, je commence par un exemple qui est celui du quartier Pultaigo, qui était un grand quartier de nouveaux logements qui avait été construit à Saint-Louis dans le Missouri dans les années 1950 pour résoudre la crise du logement. Et en fait, l'architecte, c'était un certain Yamazaki, qui a été également l'architecte plus tard du World Trade Center, qui a connu la triste fin que tout le monde connaît. Et ce quartier de Plus Taïbo, qui a été à l'époque encensé, c'est d'ailleurs ça qui a lancé la carrière de Yamazaki comme aménageur et qui a fait qu'il a été sélectionné 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, pour reconstruire le World Trade Center. En fait, ce quartier a eu également une triste fin, mais là, pas du tout à cause de terroristes, mais c'est que dans les années 70, ce quartier était devenu tellement épouvantable que ça a été le premier quartier à être dynamité. Et ça a été les... Et alors, c'est incroyable, parce que ce quartier qui, dans les années 50, a été présenté comme le nec plus ultra de la modernité, 20 ans plus tard, la seule solution qui a été trouvée, ça a été de le dynamiter. C'est le premier à avoir été dynamité, et c'est le premier d'une longue suite. Et ce qui est, pourquoi je parle aussi de ce quartier-là, c'est que Charles Jenks, qui était un architecte urbaniste, a été très frappé par cet événement. Et c'est du dynamitage de ce quartier qu'il a dit que nous avions changé d'époque et que nous étions passés de la modernité à la postmodernité. Les premières occurrences de l'usage du concept de postmodernité, c'est chez un architecte, c'est chez Charles Jenks, en référence au destin de ce quartier. Alors en fait, je pense que la postmodernité, c'est dans laquelle nous sommes, non dans laquelle nous serions entrés depuis les années 1970. Après, il y a Jean-François Lyotard aussi, à la fin des années 70, qui a écrit un livre sur ce concept qui est très intéressant. La postmodernité, elle se caractérise par deux choses. Elle se caractérise par, d'une part, une inertie de la modernité qui fait que la postmodernité, par certains côtés, c'est un prolongement de la modernité et même une hyper-modernité. Mais en même temps, la postmodernité est également extrêmement consciente, devient de plus en plus consciente des problèmes que pose ce type de développement. Et donc il y a une sorte de décalage à l'intérieur de la postmodernité entre la dynamique qui continue à être celle qui est en œuvre et l'adhésion que nous pouvons avoir vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que maintenant, le mouvement de modernisation, il est beaucoup plus subi finalement par la plupart des gens que encore porté par un idéal. On pourrait dire que la postmodernité, c'est une sorte de décrochage entre le mouvement qui nous emporte et la croyance en le fait que ce mouvement est positif. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué. On est dans une époque qui est un peu bizarre, parce que certains disent non, il n'y a pas de postmodernité, il n'y a qu'une accélération de la modernité. Mais cette accélération même de la modernité entraîne un certain nombre de problèmes qui, justement, nous rendent conscients d'un certain nombre de problèmes. Et donc, du coup, voilà, c'est ça qu'on pourrait appeler la postmodernité.
De toute façon, je voulais recommander en introduction, le livre contient des sommes d'informations et de développement que vous n'irez pas dans l'espace qui nous est imparti tenir. Sandra, monsieur, et ensuite, madame, on va essayer.
Oui. Pour prolonger la question précédente, qui me semblait aller au-delà de la question de savoir, enfin, de la définition de la postmodernité, qui était celle de savoir si vous pouvez imaginer effectivement, enfin, s'il n'y avait pas un paradigme qui se dessinait, qui était différent de ce paradigme moderne de l'espace infini à la cohérée. Et en vous entendant, ce qui me frappe, c'est que finalement, on est passé d'un premier paradigme aristotélicien, disons, sur une mode de connaissance artificielle, après un paradigme moderne dominé par la science physique, la science de la matière, la science physique, disons, et que finalement tous les exemples que vous nous donnez et ce que vous nous donnez à comprendre, ça s'inspire de la compréhension du vivant et on entre dans un âge biologique. Et finalement, même dans notre compréhension de la Terre, maintenant on parle de comprendre. La philosophie terrestre, on parle de biosphère, donc on comprend la Terre comme un ensemble vivant, des cas répondant à des caractéristiques. Donc ça, je vous en parlerai bien développé là-dessus. Et l'autre question qui nous venait aussi en vous écoutant, c'est la question politique. C'est-à-dire que on comprend en face tout ce que vous nous donnez à entendre est extrêmement stimulant et intéressant, et en même temps,
on sait bien que le retour en arrière, tout simplement le downsizing symétrique, voilà, n'est pas une option. Et donc, la question, c'est comment retrouver. On ne va pas réduire la complexité, mais néanmoins, on peut effectivement remettre ce paramètre de l'échelle dans notre réflexion. Donc, la question qui se pose, c'est vous parliez des villes florentines, des villes du Moyen-Âge, etc. Alors, on voit bien ce type de lien politique lâche entre des villes libres. Bon, voilà. On est sur, dans un séminaire sur l'environnement, la question de comment est-ce que. Comment est-ce qu'effectivement on a des alliances politiques lâches ou des alliances organisationnelles qui permettent de retrouver des échelles humaines, équitables, adaptées, tout en étant quand même obligé de voir le tout à cause de la complexité.
Bon, pour la première question, quand Aristote écrit sa physique, en fait, c'est l'étude donc de ce que les Grecs appelaient la physis. Et la physis, ça vient d'un verbe grec phuo, l'infinitif phuen, qui voulait dire croître, naître. C'est-à-dire que, et d'ailleurs dans sa physique, Aristote fait la liste des types d'objets dont doit s'occuper la physique, et il commence par dire les animaux, les plantes, et seulement après, il cite les éléments comme la terre, l'air, l'eau et le feu. Ce qui veut dire que, en fait, pour les Grecs, quand ils pensaient à la nature, c'était d'abord le vivant. D'ailleurs, quand on emploie le mot nature, on devrait se rappeler de ça aussi, puisque les Romains, quand ils ont conquis les Grecs, ils ont compris que les Grecs étaient beaucoup plus intelligents qu'eux, et donc en fait, ils se sont mis à leur école intellectuelle. Et en fait, ils ont traduit physis par natura, mais natura, ça vient de nascor, qui veut dire naître aussi. Et donc en fait, la nature, c'est d'abord effectivement le vivant. Et puis il s'est passé une inversion à l'époque moderne, parce qu'à partir du moment où Galilée dit que le livre de la nature est écrit en caractères mathématiques et ses caractères sont les figures de la géométrie, en fait, il va définir la physique pas tellement par son objet, mais par sa méthode. C'est-à-dire que la science, ça devient de la mathématisation. Or, en fait, il n'y a rien de plus difficile à mathématiser que le vivant. En revanche, l'inerte, ça se laisse beaucoup plus facilement mathématiser. Et c'est à ce moment-là, du coup, que la physique, au sens moderne du terme, va plutôt devenir la science de l'inanimé. Et il faut voir que physique, à la base, c'est synonyme de science de la nature. Et chez Galilée, il y avait l'idée d'une science, à travers la physique, ça devait être une science de la nature en général. Mais sauf qu'à partir du moment où il veut que cette science soit mathématique, par la force des choses, elle va être amenée à s'intéresser à ce qu'elle réussit à mathématiser, c'est-à-dire l'inerte. Mais, et donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir une seule physique, on va avoir la physique qui va se spécialiser dans l'inerte, et puis on va avoir l'apparition de d'autres sciences, la chimie, la biologie, etc., qui vont se constituer à côté. Et en fait, mais ce qui nous intéresse en réalité le plus dans le monde, c'est quand même le vivant, et c'est pour ça que c'est normal que la biologie finalement on retrouve une place tout à fait centrale. Mais la biologie moderne, elle est dans une situation un peu même très compliquée, parce que d'un côté, elle veut s'intéresser au vivant, mais de l'autre côté, elle veut se constituer aussi en science moderne, habitée par cet idéal galiléen de mathématisation. Et la question, c'est est-ce que le vivant peut se laisser mathématiser ? Alors Kant a réfléchi à la question, c'est dans l'objet de sa troisième critique sur la faculté de juger, et Kant pense que non. Kant pense qu'à l'intérieur du vivant, il y a du non mathématisable. Et d'ailleurs, en fait, ce que fait la biologie moderne, c'est qu'elle n'étudie pas le vivant, elle étudie des mécanismes à l'intérieur du vivant. Elle va regarder les mécanismes génétiques, elle va regarder les mécanismes d'alimentation, etc. Mais en fait, elle va faire de la biochimie, et en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques, je crois que c'est... François Jacob qui disait qu'on n'étudie plus les êtres vivants dans les laboratoires de biologie. On étudie des mécanismes à l'intérieur du vivant. C'est pour ça que la biologie moderne, c'est une drôle de chose actuellement, puisque en même temps, elle, par son nom même, elle montre qu'elle veut s'intéresser au vivant, Et de l'autre côté, par ses méthodes, elle a énormément de mal à véritablement traiter du vivant en tant que tel.
Sur la deuxième partie de la question politique, on aurait pu inviter Bruno Latour. Je propose qu'on restaure, il y a une table consacrée à la question de politique de l'Anthropocène, pour qu'on puisse saisir les deux, trois questions avant de faire la pause. Alors, il y avait madame, ensuite monsieur, s'il vous plaît, soyez bref, et la troisième là-bas. Allez-y.
Alors, ma question, elle sera en fait un peu au-dessus de remarques, mais je veux bien avoir la réponse quand même, mais de votre point de vue. Je suis Karine Hurel du CGET. CGET, c'est Commissariat Général à l'égalité des territoires, et en fait, c'est l'ancienne DATAR qui s'occupe de l'aménagement du territoire, entre autres. On a beaucoup été occupés, que nous, par la réforme territoriale qui avait comme objectif de chercher une bonne échelle d'aménagement. Et laquelle était la bonne échelle était un peu sous-entendu, une montée en échelle. Et donc toute la réforme territoriale a quand même été basée, enfin, je simplifie, sur une augmentation des périmètres, grandes régions, grandes intercommunalités, Grand Paris, grandes métropoles, etc. Et donc j'en déduis d'une certaine manière qu'en fait on se trompe dans notre direction et que c'est un peu illusoire, je caricature, d'aller vers cette montée en échelle, parce que finalement c'est pas cette direction-là qu'il fallait suivre.
Oui, après ça dépend. En fait, chez Léopold Corp, il disait à chaque fois quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. En fait, quand on lit bien Léopold Corp, on s'aperçoit que ce qui ne fait pas l'apologie du petit, mais il fait l'apologie du proportionné. En fait, pour chaque fonction, il faut essayer de déterminer a priori la taille qui correspond le mieux au traitement, à l'accomplissement de cette fonction ou au traitement de la question en cause. Et alors en fait, selon les fonctions et selon les questions, en fait, bah, ça ne va pas du tout être les mêmes échelles. Et donc en fait, si vous voulez parler des échelles d'organisation indépendamment des questions qu'elles ont à traiter, je trouve qu'on parle un petit peu dans le vide. Moi, personnellement, je pense qu'avec les bouleversements qui nous attendent au cours du XXIe siècle, par exemple, quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est d'avoir le plus possible d'autonomie alimentaire dans des régions de taille réduite. Parce que le premier besoin humain, c'est quand même de manger. Et c'est pas raisonnable d'être dépendant pour sa nourriture d'un système de transport mondial. Bon, donc, en fait, il faut essayer de ce point de vue-là d'avoir beaucoup plus d'autonomie alimentaire. Donc, pour les besoins fondamentaux, je pense que l'organisation, on doit aller vers des choses beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Mais en revanche, encore une fois, si je prends les exemples des cités de la Renaissance, la vie intellectuelle européenne était beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie intellectuelle était européenne. Donc en fait, voilà, c'est suivant les questions auxquelles on s'intéresse, ce n'est pas les mêmes échelles qui sont pertinentes. Et donc il faut essayer de trouver les bonnes proportions. Mais en revanche, le fait de, si vous voulez, pour le fait, si on pense à la question de la fonction de manger, en fait, je trouve ça stupide de raisonner au niveau mondial. Au contraire, il faudrait raisonner au niveau du pays, de voir des sortes d'autonomie alimentaire dans des régions de taille réduite.
Philippe Valla, Clermont Métropole. Dans tout ce que vous avez dit, je m'interroge sur nos capacités, la capacité humaine en fait. Vous avez donné beaucoup d'exemples qui relèvent de la physique, des exemples qui renvoient à de la matière. Mais quand on parle de notre capacité à évoluer, on peut mathématiser notre cerveau, je ne sais pas, mais il y a une capacité à évoluer dans notre capacité à pouvoir faire évoluer les organisations, et qui n'est pas forcément qu'une question de taille. Toute votre explication, c'est comme si elle, je vais pousser un peu, une sorte d'ordre naturel des choses dont on ne pouvait plus s'extraire. Donc on est même limité dans notre capacité à évoluer et à penser les ordres de grandeur. Une toute petite chose, c'est... en même temps c'était assez baroque de vous entendre, parce qu'on est quand même passé du col du fémur du géant en passant par la taille d'une locomotive de TGV et l'autre, c'était complètement décoiffant de vous entendre.
Bon, il y a une phrase de Canguilhem que j'essaye de toujours garder en tête, qui dit qu'il faut faire attention aux analogies trop brutales que l'on pourrait faire entre les organismes vivants, par exemple, et les sociétés humaines, parce qu'il dit pour un organisme, l'organisation est son fait, pour une société humaine, c'est son affaire. Voilà. Donc, pour l'organisme, l'organisation lui est donnée, c'est cela même qui le fait exister. Pour une société, c'est elle qui a à s'organiser, elle n'a pas une organisation comme ça qui lui est imposée. En même temps, si vous voulez, la question c'est toujours celle d'un, c'est toujours celle d'un équilibre, c'est-à-dire que certes, par exemple, Lumière ont eu raison d'insister sur la perfectibilité de l'être humain, mais à côté de la perfectibilité de l'être humain, il faut aussi mentionner l'imperfectibilité de l'être humain, c'est-à-dire en fait, on a aussi quand même des limites naturelles, on a des facultés d'adaptation extraordinaires, d'invention, etc., mais on a aussi quand même des limites naturelles. Et alors en fait, je pense que si vous voulez, dans une époque où les choses sont assez bloquées, s'il est raisonnable d'insister sur les capacités de changement que nous avons. En revanche, dans l'époque, après, dans l'époque où nous sommes, je pense que ce qui est le plus urgent, c'est plutôt de rappeler un certain nombre, malgré tout, de limites. Mais c'est comme que je disais, la question, ce n'est pas du petit ou du grand, mais c'est du proportionné. En fait, c'est l'équilibre entre ce qu'on peut changer et en même temps, en n'oubliant pas que ce changement, il doit tenir compte aussi d'un certain nombre de grandeurs qui sont quand même difficilement dépassables. Voilà, mais c'est un équilibre à trouver. Et selon les cas, selon les périodes historiques, il faut plutôt insister sur une chose que sur une autre. Par exemple, si Léopold Kohr disait que notre problème, c'est que partout il y a des problèmes, c'est que c'est trop gros. En fait, c'est exagéré parce que c'est pas, c'est encore une fois, c'est pas le petit qui est bien, mais c'est proportionné. Mais quand on est dans le gigantisme, en fait, c'est le trop gros qui pose problème, c'est pas le trop petit. Donc, si jamais les choses devenaient vraiment trop petites, il serait temps de dire qu'il faut les faire grossir. Mais voilà, il y a des urgences aussi du temps. Et il me semble que l'urgence du temps, il est plus à rappeler certaines limites qu'à dire qu'on peut s'en affranchir. Mais cela dit, je vous le dis, c'est un discours. Historiquement situé, qui veut répondre à notre situation historique.
Il faut qu'on s'arrête là.